Économie marocaine, une croissance qui tient, mais sous tension. Voilà, je pense que c'est le titre qui résume parfaitement les documents qu'on a devant nous aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
On va donc se pencher sur la situation du Maroc en ce début 2026. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre ce paradoxe. D'un côté, on a des chiffres macroéconomiques qui sont excellents, presque.
Presque insolents, oui.
Exactement. Et de l'autre, on sent des tensions sociales, des blocages structurels qui sont bien réels.
C'est exactement ça, un tableau tout en contraste. Pour y voir plus clair, je propose qu'on avance peut-être en trois temps.
D'accord.
D'abord, on regarde le cadre général, les grands chiffres qui donnent ce sentiment de résilience.
La photo d'ensemble.
C'est ça. Ensuite, on va aller gratter un peu sous la surface pour voir ce qui se cache derrière ces fameuses tensions dont tu parles.
Et puis on finira sur les réponses apportées, les grands paris sur l'avenir, que ce soit dans la tech ou le soutien aux entreprises plus classiques.
Ça me semble parfait comme plan, alors allons-y. Le premier chiffre qui frappe, c'est cette prévision de croissance, 4,2% pour le premier trimestre 2026.
Annoncé par le Haut Commissariat au plan, oui.
Et la Banque mondiale est même encore plus optimiste.
C'est vraiment solide, on sait ce qui tire cette dynamique vers le haut.
Oui. Les sources sont assez claires, ça repose sur deux piliers, deux grands moteurs. Le premier, et le plus important, c'est la demande intérieure.
D'accord.
La consommation des ménages, elle progresse de presque 4%. C'est l'effet de plusieurs choses. Des hausses de salaire dans le public, des petits allègements fiscaux.
Et le répit sur l'inflation, j'imagine?
Et surtout ça, oui, on y reviendra. À côté de ça, il y a la locomotive de l'investissement public qui, elle, ne ralentit pas. Les grands chantiers continuent.
D'accord, donc la demande intérieure est solide, mais ça ne peut pas tout expliquer, si surtout que le contexte mondial n'est pas non plus euphorique.
Non.
Qu'est-ce qui compense la faiblesse des exportations de biens, comme l'automobile ou le textile, qui sont mentionnés dans les notes?
C'est là que le deuxième moteur arrive, et c'est le secteur des services. Il joue un rôle de contrepoids qui est absolument essentiel.
Et dans les services, j'imagine qu'on pense au tourisme.
Exactement. Le tourisme a fait une performance exceptionnelle. Les documents parlent d'un record historique en 2025.
Ah oui?
19,8 millions de visiteurs. C'est énorme.
C'est spectaculaire, en effet. Mais est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est juste un effet one-shot lié à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025?
Très bonne question.
On ne risque pas un petit retour de bâton une fois que l'effet de l'événement sera passé?
C'est tout l'enjeu. L'effet Cannes a été un catalyseur, un vrai coup de projecteur. Mais la stratégie, c'est de capitaliser là-dessus. Les investissements dans les hôtels, les transports, ils sont toujours là.
Mmh.
Le pari, c'est que l'événement a mis le Maroc sur la carte pour de nouvelles clientèles. Mais le vrai test, ce sera bien sûr les chiffres de 2026 et 2027.
Attendez, je vois un autre point dans les notes qui m'étonne un peu. Standard & Poor's a reclassé le Maroc en investment grade.
Oui.
Franchement, après toutes les crises qu'on a connues, ça semble aller complètement à contre-courant. Qu'est-ce qui a pu motiver ça, maintenant?
C'est un signal de confiance très fort. Et il est basé sur plusieurs choses. D'abord, une certaine discipline budgétaire qui a été maintenue. Et puis, la résilience de l'économie dont on vient de parler.
D'accord. Mais concrètement, ça change quoi, finalement?
C'est très simple. Ça veut dire que pour les grands fonds d'investissement, le Maroc est vu comme une destination plus sûre pour leur argent.
Donc, si je traduis, l'argent coûte moins cher.
Exactement. Le pays peut aller se financer sur les marchés en payant beaucoup moins d'intérêts. On vous fait confiance, donc on vous prête à meilleur taux. Et ça, ça libère de l'argent pour d'autres projets.
D'accord.
On voit d'ailleurs l'effet miroir sur la bourse de Casablanca, l'indice MASI qui bondit de presque 28%.
Ah oui.
C'est le thermomètre direct de ce regain de confiance.
Un dernier chiffre de ce tableau macroéconomique m'a vraiment interpellée. L'inflation, devenue négative fin 2025 à moins 0,1%.
C'est vrai que ça surprend.
On a tellement parlé de la flambée des prix que ça paraît presque trop beau. C'est une bonne nouvelle sans aucune ombre au tableau, non?
Non, et c'est là qu'on commence à voir toute la complexité. C'est typiquement le chiffre à double tranchant. D'un côté, évidemment, pour le pouvoir d'achat, c'est un soulagement.
C'est certain.
Mais de l'autre, une inflation négative, la déflation, ça peut aussi être le symptôme d'un ralentissement. Si les prix baissent parce que la demande, notamment étrangère, faiblit.
Alors, la bonne nouvelle à court terme cache un problème à plus long terme.
Précisément. C'est une vulnérabilité.
Et cette idée de vulnérabilité cachée, c'est exactement ce que met en avant le Global Risks Report du Forum économique mondial, non?
Absolument. On passe de l'autre côté du miroir.
Il pointe le chômage comme le risque numéro un pour le pays. Ça semble contredire la bonne santé macro qu'on vient de décrire.
Complètement. Les chiffres sociaux, eux, racontent une autre histoire. Le taux de chômage a un peu baissé, on est à 13,1%, mais ça reste un niveau extrêmement élevé.
Surtout chez les jeunes, j'imagine.
Surtout chez les jeunes, oui, on dépasse les 12%. Et ce chiffre, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le rapport du WEF montre que ce n'est pas un problème isolé.
C'est-à-dire ?
Le chômage serait la conséquence d'autres problèmes ?
Exactement.
Les experts interrogés pour ce rapport, ils décrivent une toile de fond assez pointille, préoccupante. Ils parlent d'une perception de dégradation des services publics, la santé, l'éducation. Ils soulignent que la hausse passée de l'inflation a durablement touché le budget des familles. Et ils pointent les inégalités et le stress sur les ressources. Le problème de l'eau, par exemple, qui revient tout le temps.
Donc, le chômage, c'est le symptôme final de toutes ces fractures.
C'est la conséquence.
Et pour illustrer ça, les documents donnent un exemple qui est presque une caricature, l'écosystème des startups. Les chiffres sont...
sidérants, ouais.
En 2025, les startups marocaines ont levé 58 millions de dollars. En face, le Kenya, c'est 984 millions. L'Égypte, 614. Je répète le chiffre pour le Maroc, 58 millions. C'est pas juste une question d'argent à un tel écart, c'est quoi le vrai blocage ?
Le vrai blocage, et c'est ça qui est frappant, il n'est pas seulement financier, il est culturel et structurel. Il y a une phrase dans les notes qui m'a vraiment marqué.
Laquelle ?
Au Maroc, l'échec colle à la peau. C'est terrible comme constat.
Ah oui.
Ça veut dire qu'un entrepreneur qui se lance, et qui échoue, ce qui est normal pour 90% des startups dans le monde, il se retrouve catalogué. Les portes des banques se ferment, mais les portes sociales aussi. Ailleurs, l'échec, c'est la preuve que tu as osé.
Ici, c'est une marque d'infamie. Donc, avant même l'argent, il y a cette peur de l'échec qui paralyse tout.
Elle paralyse l'audace, oui. Et ça se combine avec d'autres problèmes très concrets. Il y a le financement, bien sûr. Les fonds de capital risque locaux sont décrits comme frileux.
C'est-à-dire ?
Ils agissent plus comme des banquiers prudents que comme des investisseurs qui parient sur l'avenir. Ils cherchent le retour sur investissement immédiat.
Pas le potentiel de rupture.
Exactement. Et puis il y a le rôle de l'État, la commande publique, qui devrait être un accélérateur. C'est un parcours du combattant administratif. Ça favorise toujours les mêmes, les grands groupes établis.
Une start-up n'a quasiment aucune chance.
Aucune.
J'ai aussi noté un point sur l'image à l'international, la narration, comme ils disent.
C'est le quatrième pilier du problème. Le Kenya s'est positionné comme la Silicon Savannah, c'est clair. Le Maroc, lui, envoie des messages un peu brouillés.
Comment ça a brouillé ?
On entend parler de hub vers l'Afrique, de porte de l'Europe, de futur pôle d'intelligence artificielle. Pour un investisseur qui a 30 secondes pour comprendre le potentiel, c'est confus. L'histoire n'est pas assez claire.
D'accord. Le tableau est complexe. De bons indicateurs, mais de vrais freins structurels. Alors, face à ça, que fait-on ? Les documents parlent d'une ambition énorme. Créer 50 000 emplois grâce à l'IA d'ici 2030.
C'est la fuite en avant technologique.
C'est le cap, la vision à long terme. C'est nécessaire d'afficher une telle ambition. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en même temps, il y a des actions beaucoup plus terre-à-terre, qui visent à renforcer le tissu économique qui existe déjà et qui est le vrai pourvoyeur d'emplois, les PME et les TPE.
On a d'ailleurs deux exemples très concrets dans les notes qui illustrent bien ce double mouvement. D'un côté, une start-up, Repartrust.
Oui.
Et de l'autre, un énorme fonds d'investissement, Adenia.
C'est ça. Repartrust, c'est l'innovation pragmatique. Une start-up qui a levé une somme modeste, 7,5 millions de dirhams.
D'accord. Pour s'attaquer à un problème très concret, digitaliser la gestion des sinistres automobiles. Ils utilisent un peu d'IA pour analyser les dégâts sur une photo et simplifier la relation entre l'assureur, le garagiste et le client.
C'est l'exemple parfait de l'innovation qui améliore l'économie réelle.
Exactement.
Et à l'autre bout du spectre, on a cet Adenia Entrepreneurial Fund. Là, on change d'échelle.
On change complètement de dimension. C'est un fonds panafricain qui veut lever jusqu'à 180 millions de dollars avec des poids lourds comme la Banque africaine de développement derrière.
Et leur but, c'est pas de financer les petites start-up.
Non. Leur but, c'est d'investir des tickets de 5 à 20 millions de dollars dans des PME qui sont déjà bien établies, pour les aider à devenir des champions régionaux. Et le Maroc est une de leurs cibles prioritaires.
D'accord.
Et ce qui est intéressant, c'est que leur mission n'est pas que financière. Ils ont des objectifs chiffrés de création d'emplois. 1810 au total, avec des cibles précises pour les femmes et les jeunes.
C'est là que j'ai une question. On a cette grande ambition sur l'IA, une start-up qui digitalise les garages et un gros foin pour les PME. Est-ce que les sources nous disent comment ces mondes communiquent entre eux ? Ou est-ce que ce sont deux stratégies en parallèle qui ne se croisent jamais ?
La question de la cohérence, elle est centrale. Pour l'instant, oui, ça ressemble à deux stratégies qui avancent en parallèle. D'un côté, le pari sur la rupture technologique, c'est du long terme. De l'autre, une action plus immédiate pour consolider l'épine dorsale de l'économie. Le chaînon manquant, c'est peut-être ce qui permettrait à une start-up comme Repartrust de devenir un jour une cible pour un fonds comme Adenia.
Et il y a des choses qui sont faites pour créer ce pont.
Il y a des initiatives, oui, comme le partenariat entre l'agence allemande GIZ et l'observatoire marocain de la TPME. Ils se concentrent sur la formation, l'accompagnement, mais le chemin est encore long pour que tout ça forme un écosystème vraiment intégré.
On boucle la boucle alors et on revient à notre paradoxe du début. Une économie macro-résiliente, mais avec des fondations sociales et entrepreneuriales qui semblent fragiles. La trajectoire du Maroc en 2026, finalement, c'est un vrai numéro d'équilibriste.
Oui, entre le moteur puissant de l'investissement public et la nécessité de libérer l'énergie d'un secteur privé qui doit devenir plus audacieux.
Et plus inclusif,
absolument. C'est une excellente synthèse. Et pour ouvrir un peu la réflexion, il y a une phrase dans un des articles qui me semble tout résumer.
Je vous écoute.
Elle dit « La confiance dans les institutions demeure un facteur déterminant. Au fond, la vraie question pour le Maroc en 2026, c'est peut-être pas seulement de savoir s'il va atteindre ses 4,2% de croissance. »
Mais de savoir ce que cette croissance signifie pour les gens.
Voilà. Est-ce qu'elle peut se traduire en opportunités réelles et perçues par tous, surtout par une jeunesse qui a d'immenses attentes? D'ailleurs, on voit apparaître une mention d'une charte du 11 janvier 2026 pour la jeunesse, qui semble aller dans ce sens.
Celui d'un nouveau contrat social.
C'est ça. Le défi ultime n'est peut-être plus seulement économique. Il est politique au sens noble du terme. C'est celui de la confiance. La confiance dans la capacité à transformer les chiffres du PIB en un avenir concret pour le plus grand nombre.